Bon, si vous voulez, on va commencer la petite conférence hein, sur le sujet donc des relations possibles, probables. Hein, on va le voir entre en fait les changements climatiques qui ont eu lieu sur les derniers millions d'années. Hein, évidemment, là, on va parler des échelles de temps assez importantes, plusieurs millions d'années, et donc les relations qui ont existé entre ces changements climatiques. On va le voir qui peuvent être assez importants et ben, les l'évolution du genre humain, l'évolution des espèces, hein, dont la nôtre. En fait, on veut comprendre, essayer, hein, on va dire, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui explique que nous sommes tels que nous sommes, qu'est-ce qui a permis à notre espèce de survivre, parce que c'était pas gagné, on va le voir, hein, on aurait très bien pu disparaître comme beaucoup d'espèces ont disparu. À quel moment ça s'est fait, à quel rythme ça s'est fait, etc. Donc on veut avoir un peu de détails sur la façon dont nos ancêtres ont évolué et la façon dont l'espèce humaine actuelle, on va dire, a émergé. Et ça, donc, c'est de toute évidence, on va dire, lié aux évolutions climatiques et aux changements d'environnement qui ont eu lieu. Alors, donc, bon, pour en guise d'introduction, hein, tout le monde entend au fond, hein, en guise d'introduction, hein, donc on va parler de l'évolution de l'homme, mais on fait partie de on est une espèce animale, donc quelques rappels, on va dire, sur l'évolution des espèces. En fait, quand on parle d'évolution des espèces, hein, on s'intéresse à des phénomènes, c'est donc l'apparition de nouvelles espèces, mais comme je l'ai laissé entendre, la disparition, hein, parce que on va le montrer, il y a eu beaucoup plus d'espèces qui ont disparu que d'espèces existantes actuellement, et même sans parler d'apparition ou d'extinction des espèces, les organismes se modifient, et quand elles accumulent des modifications, ben c'est l'espèce elle-même qui se modifie à tel point qu'elle finit par devenir une autre espèce. Bon, hein, et c'est ce qu'on appelle l'évolution des espèces, et ça, donc, ça se fait à des échelles de temps importantes, hein, des milliers, des dizaines de milliers d'années, des centaines, des millions d'années, hein, des centaines de milliers, des millions d'années, et ça se fait en fonction, bien sûr, de l'environnement, donc du lieu dans lequel ces espèces se trouvent. Donc, quand on parle d'évolution des espèces, on parle de tout ça. Alors, des espèces, hein, j'ai dit, ben, nous, on en est une, mais il y en a beaucoup, 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 des espèces, hein, il y a plusieurs millions d'espèces actuellement. Alors, si vous regardez la flèche rouge, là, hein, on sait qu'on fait partie, nous, d'une classe, hein, c'est comme ça qu'on dit, on est un animal, bien sûr, on fait partie des animaux, hein, en tant qu'être humain, et on fait plus particulièrement partie de la classe des mammifères. Alors, des espèces de mammifères, hein, il y en a un peu plus de 5000, bon, c'est pas mal, mais enfin, si on compare aux insectes, hein, les insectes, il y en a au moins 1 million d'espèces, et beaucoup, on connaît pas. Bon, enfin, bon, donc, nous faisons partie des 5000 et quelques espèces de mammifères, et si on, voilà, si on s'intéresse aux espèces qui ont disparu, hein, comme je l'ai laissé entendre, ben, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Hein. On estime qu'il y a eu plusieurs milliards d'espèces depuis l'histoire de la vie, hein, depuis 2 ou 3 milliards d'années. Bon, là, je mets, hein, quelques photos d'espèces, on va dire, célèbres qui ont disparu. Hein. Il y en a, c'est il y a très longtemps, il y a 250 millions d'années. Hein. Bon, quand même, sachons qu'il y a 250 millions d'années, on estime que 90% des espèces marines ont disparu, hein, parce qu'il y a eu une catastrophe, on en reparlera un petit peu. Après, il y a des exemples que tout le monde connaît. Évidemment, il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures. Bon, et ça, c'est un phénomène climatique, alors on va dire catastrophique, mais catastrophique et climatique, qui a entraîné la disparition des dinosaures, et on sait que c'est aussi ce qui a permis aux mammifères qui existaient déjà avant, hein, ce qui a permis aux mammifères d'occuper la place en fait laissée libre par les dinosaures. Bon, et puis si on regarde beaucoup plus récemment, hein, en bas à droite, le mammouth, il a disparu, ça c'est pas vieux, hein, il y a 12 000 ans seulement. Alors ben, là aussi, hein, il y a des raisons climatiques, mais se rajoute quand même un facteur qui est là non climatique, c'est qu'il a été chassé intensément par notre espèce, par Homo sapiens. Hein, donc voilà, donc les espèces, elles apparaissent en fonction des changements climatiques, elles disparaissent en fonction des changements climatiques, mais la petite nouveauté, c'est qu'elles peuvent disparaître aussi en fonction des activités, et notamment des activités humaines. Mais c'est pas de ça qu'on va parler, hein, on va parler de l'ensemble des phénomènes climatiques qui ont fait, enfin, on pense, hein, qui ont fait que nos ancêtres ont évolué de telle façon, dans telle direction, et à tel moment et à tel rythme. Alors, si je poursuis un petit peu, hein, j'ai dit on fait partie des 5000 espèces de mammifères. nous sommes des primates. Hein, donc les primates, pour faire simple, on pourrait dire nous faisons partie de l'ordre, c'est un ordre, hein, l'ordre des primates, c'est, on pourrait dire les singes, hein, nous faisons partie d'espèces de singes. Les primates, c'est un ordre d'espèces qui est apparu il y a environ 65 millions d'années, à peu près au même moment où les dinosaures disparaissaient. Hein. Bon, alors parmi les primates, je montre la figure suivante, voilà, hein, donc ça c'est la famille des primates, je répète pour dire simple, on pourrait dire la famille des singes, et nous, donc vous voyez, nous sommes à droite, tout près de nos cousins proches actuels, hein, donc la ligne du haut, c'est les espèces actuelles, hein, donc on sait que nous sommes très très proches à tout point de vue, entre guillemets, bon, génétiquement, anatomiquement des chimpanzés, mais nous ne sommes pas très loin des gorilles. Alors vous voyez, hein, si vous prenez les deux branches qui descendent de l'homme et du chimpanzé, on arrive à une date qui est de 6, alors on dira peut-être un peu plus tout à l'heure, 6 ou 7 ou 8 millions d'années, c'est à ce moment-là que les espèces de nos ancêtres ont divergé. Hein, et donc c'est à ce moment-là qu'on situe ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun entre ce qui allait donner l'homme et ce qui allait donner les chimpanzés. Si on monte un petit peu plus dans le temps, hein, il y a 9 ou 10 millions d'années, en fait, notre branche, on va dire, s'est séparée de des espèces qui allaient donner les gorilles, etc. Donc, si vous regardez rapidement en haut, vous avez, on va dire, vers la droite, ce qu'on appelle les grands singes. Voilà, les grands singes, donc, c'est orang-outan, gorilles, chimpanzés et hommes. Hein, nous faisons partie des grands singes. Et puis, après, il y a les autres. Hein, bon, on n'appelle pas ça les petits singes, hein, mais bon, peu importe le nom exact. Donc, ce sont des singes, des espèces actuelles. La ligne que vous voyez en dessous, hein, les quatre espèces qui sont représentées ici, c'est des espèces disparues, mais dont on a retrouvé les fossiles. Donc, ce sont, en quelque sorte, nos ancêtres aussi, hein, si on remonte loin dans le temps. Bon, alors nous, on va pas parler de tout ça, hein, parce que ça ferait trop. En fait, on va parler vraiment de la dernière partie, hein, on va dire 6, 7, allez, 10 millions d'années. Hein, et donc, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au niveau climatique et au niveau biologique, hein, nous concernant. Alors, donc voilà, hein, une autre représentation, c'est, on va dire, un schéma un petit peu technique, hein, mais nous sommes, alors, à droite, hein, ce que j'ai entouré en rouge, on fait partie, bon, hein, d'une famille qu'on appelle les homininés. Pour faire simple, les homininés, c'est nous, bon, Homo sapiens, notre espèce, mais tous nos ancêtres et nos cousins, nos grands-tantes, etc., enfin, tous ceux qui font partie de la famille de nos ancêtres, qu'on qualifie d'exclusifs. Sous-entendu, de tout ce groupe d'homininés, nous sommes les seuls descendants. Sous-entendu aussi, si vous regardez, les chimpanzés actuels, qui, comme je l'ai dit, sont l'espèce la plus proche de ce que nous sommes, n'ont pas les mêmes parents, voilà, hein, n'ont pas les mêmes ancêtres. Donc la famille des homininés, hein, que je montrerai des représentations un petit peu plus loin, c'est, on va dire, la grande famille de nos ancêtres. Alors c'est pas forcément nos ancêtres directs, hein, on verra qu'il y a eu des branches évolutives qui étaient parallèles à ce qui allait finir par donner l'espèce humaine, mais on peut quand même dire que ça fait partie de notre famille d'ancêtres au sens large. Et donc, hein, vous voyez ce que j'ai mis en évidence, hein, le croisement entre la branche qui va donner nos espèces humaines, dont nous, et celle qui va donner les chimpanzés. Donc cette séparation, hein, c'est là qu'on situe donc le fameux dernier ancêtre commun que tout le monde cherche. Alors on le trouvera jamais, hein, jamais tout à fait, mais enfin on cherche à savoir à quoi il ressemblait. Bon, ça on va avoir une idée. Et puis on cherche surtout à savoir quand ça s'est produit, pourquoi, comment, etc. Bon, et donc c'est pour ça qu'on va parler du climat notamment. Alors, hein, donc la date, je l'ai déjà un petit peu donnée. Hein, on estime que c'est entre 6 et 8 millions d'années qu'il y a eu cette séparation. Alors, donc voilà, hein, j'ai notre famille au sens large. Hein, bon, donc là, c'est évidemment un photomontage dans lequel on représente un homme actuel. Ça doit être un chercheur, j'imagine, et des reproductions qui sont faites actuellement. Hein, ils fabriquent des mannequins en quelque sorte, hein, à partir des crânes, des fossiles du genre de ce que j'ai là, hein, qui ont été retrouvés. Et bon, ils arrivent à reconstruire, on va dire, des maquettes, des mannequins, donc de ce à quoi pouvaient ressembler nos ancêtres. Bon, alors ça, évidemment, c'est juste pour s'amuser, mais si on regarde des schémas un peu plus sérieux, on va dire, ça va ressembler à ça. Alors, bon, ça paraît très compliqué, mais bon, on va quand même faire un peu le tri. Donc, vous voyez en bas l'échelle de temps, hein, donc là, on remonte à peu près à 6-7 millions d'années, hein, et puis, à droite, c'est la période actuelle, et donc, vous voyez, hein, actuellement, il y a Homo sapiens, en bas à droite, c'est nous. Hein, il n'y a plus que nous, de toute cette famille, de nos ancêtres, hein, c'est ça qu'on appelle les hominines. Alors, entre-temps, vous voyez qu'on a eu beaucoup d'ancêtres, voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. La chose la plus évidente, c'est que c'est pas simple, voilà, hein, c'est pas une ligne droite, on peut pas dire, à une époque c'était comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'évolution, elle a testé, elle a essayé, on va dire, plusieurs formes, hein, et donc on va en discuter, elle a essayé plusieurs espèces, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont pas réussi. Ici, hein, voilà. Alors, on appelle ça un buisson évolutif. Hein, vous voyez, c'est sous forme de buisson parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Hein, bon, voilà. Donc, hein, c'est une représentation. Alors, ce schéma, j'aurais besoin de le reprojeter de temps en temps pour qu'on se situe. Hein, donc, pour l'instant, je montre juste nous où est-ce qu'on est. On va dire en bas, à droite. Voilà. Hein, on est au bout de cette évolution. Et on va remonter. On va s'intéresser, par exemple, hein, à aux fossiles qu'on a découverts et qui datent de 6 ou 7 millions d'années, et on va s'intéresser aussi à tout ce qu'il y a au milieu. Alors oui, vous voyez des points d'interrogation dans tous les sens, ça veut dire que il y a beaucoup d'inconnus, hein. Voilà, donc de façon générale, ce que je vais dire, à chaque fois je mettrai beaucoup de réserves, on pense que, on croit que, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors on fait des raisonnements, hein, c'est bien, on essaye de comprendre, mais on va pas être affirmatif, hein. Il y a des choses qu'on peut dire, affirmer si vous voulez, mais faut toujours rester prudent dans ce domaine-là, parce que on pourrait dire c'est un puzzle et on n'a pas toutes les pièces et on ne sait pas bien le refaire. Hein. Voilà. Alors, on va quand même en parler, il n'y a pas de raison. Alors, je reviens un petit peu sur ce mécanisme général d'évolution des espèces. Alors, on va dire aujourd'hui, il y a quand même plus grand monde pour contester le principe même de l'évolution des espèces. Bon, s'il y en a qui ont encore des doutes, les preuves, on va dire, s'accumulent. Hein. Donc là, je rappelle juste une page, on va dire, un ensemble de preuves qui font que c'est difficile aujourd'hui de prétendre que nous n'avons pas évolué comme les autres espèces et à partir des autres espèces. Alors, par exemple, ce que vous voyez en bas à droite, c'est ce qu'on appelle des planches d'anatomie comparée. Alors ça, les naturalistes, ils font ça depuis 2 siècles. Hein. Ils regardent les squelettes des animaux et puis ils les comparent. On s'aperçoit qu'entre un homme, un poulet, une baleine, etc., par exemple, si on prend le bras ou la main, ça se ressemble beaucoup, tout ça. Hein. Donc c'est quand même un fort indice que nous avons un ancêtre commun, sinon on se ressemblerait pas tant. Alors, bien sûr, on a les fossiles. Alors, les fossiles, ça fait quand même pas très très longtemps qu'on en découvre et qu'on s'y intéresse et qu'on les cherche, surtout. Hein, et donc, quand on les cherche, on les trouve. Hein, on trouve des fossiles qui montrent ce que étaient les espèces il y a 100 000 ans, il y a 1 million d'années, il y a 2 millions d'années, etc. Donc, on arrive quand même à reconstruire un petit peu le film. Hein, donc, les fossiles nous permettent de montrer. Hein, on va voir qu'il y a eu des étapes intermédiaires. Voilà, c'est incontestable. Hein, on n'est pas passé d'un tout petit singe minuscule qui pesait 5 kilos d'un seul coup à Homo sapiens, ou même de façon linéaire, il y a des étapes, et les étapes, en fait, on les trouve sous forme de fossiles. Hein, donc l'évolution, on la voit en quelque sorte, hein, même avec les fossiles. Alors si ça suffit pas, on peut s'intéresser en bas à droite, hein, à l'embryologie. Hein, donc ça, c'est un truc un petit peu marrant. Hein, si on regarde des embryons de quelques jours, hein, c'est la première ligne du haut, on compare un homme, un poulet, une salamandre et un poisson, à part les spécialistes, on constate que ça se ressemble beaucoup. Et ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est que l'œuf, entre guillemets, hein, les premières cellules, les premières divisions cellulaires, hein, des animaux que nous sommes, sont identiques à peu de choses près, pas tout à fait la preuve, hein, sinon ça resterait identique, mais ressemble beaucoup, on va dire, que l'on soit homme, poulet, salamandre, etc. Donc ça veut dire que tous ces animaux-là ont des ancêtres communs, ont un ancêtre commun, on a la même origine, hein, voilà. C'est bon, alors évidemment dès qu'on progresse un petit peu dans le temps, hein, quelques jours après, ben ça se différencie, et trois semaines après, bon là c'est clair, hein, on arrive à reconnaître à droite un embryon humain, après un embryon de poulet, etc. Voilà, mais au départ, ben ça c'est quand même une trace sérieuse, hein. Bon, alors une preuve, oui, quand même, on peut dire une preuve que ben, nous avons bien été, on va dire, que nous sommes bien construits au départ, en tout cas, de la même façon. Bon, et puis, alors ça, on va dire, ça fait un certain temps qu'on connaît ce genre de choses. Depuis une cinquantaine d'années, on va dire, ben, il y a la génétique. Hein. Bon, il vient d'avoir une grosse conférence, hein, sur ce thème de la génétique. Alors la génétique, la découverte de l'ADN, etc. En fait, ça nous permet d'expliquer ce qu'on n'arrivait pas bien à comprendre avant. Bon, et vous avez tous entendu parler que nous avons, hein, on entend des chiffres du genre, nous avons 98,8% de notre code génétique qui est identique aux chimpanzés, etc. Bon, donc ces chiffres-là, peu importe le détail. Mais enfin, voilà, c'est il suffit de lire en quelque sorte notre ADN pour s'apercevoir que nous avons bien des ancêtres communs, que ben, nous avons évolué à partir d'espèces communes d'ancêtres communs. Bon, donc voilà, hein, on peut considérer que l'évolution des espèces, hein, est un fait totalement acquis. Alors, pour la petite histoire, bien sûr, hein, il faut comment ne pas citer le travail de Darwin, hein, puisque c'est quand même lui qui, il y a 150 ans, un peu plus maintenant, hein, qui a mis en évidence ben, ce mécanisme, hein, d'évolution des espèces, hein, bon, et donc hein, avec une formule, hein, qui est la sélection naturelle, hein, la survie du plus apte. Bon, hein, donc là aussi, hein, je ne vais pas faire toute la théorie, hein, de Darwin, mais en quelques mots, Darwin a étudié en fait la nature, hein, il a constaté qu'il y avait plein d'espèces et plein de variétés dans le monde animal et végétal d'ailleurs, hein, dans le monde vivant, et il a vu qu'en fait elles étaient à la fois différentes mais à la fois elles se ressemblaient. Bon, puis il a cherché à comprendre, et ben donc il a mis en évidence le fait que dans cette variété il y avait des caractères qui permettait d'apporter à l'espèce qui les portait des avantages. Alors des avantages, ça veut dire des avantages pour survivre. Hein, donc c'est ce qu'il appelle le plus apte. Hein. Bon, concrètement, celui qui court plus vite, il a plus de chances de survivre parce qu'il va pas se faire bouffer par les prédateurs. Celui qui voit plus loin, par exemple, si je suis un rapace, si j'ai une capacité, on va dire, de vision qui me permet d'attraper plus de proies, bah, je vais mieux me nourrir, je vais pouvoir avoir des descendants, donc me reproduire, etc. Et donc mon espèce va se perpétuer. Inversement, si je suis, on va dire, handicapé par mon, on va dire, par exemple, des animaux énormes tels que les dinosaures, par leur masse et la quantité de nourriture qu'ils devaient ingérer, et que d'un seul coup, que assez brutalement la nourriture disparaît, parce que c'est ce qui s'est produit au moment de la disparition des dinosaures. Bon, ben, mon espèce va être inadapté, hein, et donc ben, cette espèce va péricliter et finir par disparaître. Bon, donc Darwin, hein, ça il l'a expliqué il y a déjà 150 ans, hein, il a eu du mal à faire admettre son idée, mais enfin bon, aujourd'hui, hein, il y a quand même plus grand monde qui le conteste, on va dire qu'on l'a complété, on l'a corrigé, on l'a, etc. Et puis, je répète, il y a eu, depuis quelques dizaines d'années, les apports de la génétique qui ont permis d'expliquer en fait ce que Darwin ne pouvait pas comprendre, parce que en fait, lui, il constatait que ça bougeait, les espèces variaient, se reproduisaient, etc. Mais il ne savait pas quel était le support matériel, et ce support matériel, concrètement, c'est l'ADN. Bon, le schéma à droite, hein, je ne vais pas le commenter, mais enfin, vous avez tous entendu parler de mutations génétiques. Bah, effectivement, heureusement que d'une génération à une autre, il y a des mutations génétiques, il y a aussi des recombinaisons génétiques. Bon, en fait, il y a une cuisine génétique qui fait que bah, on n'est jamais tout à fait identique à nos prédécesseurs, et nos descendants seront légèrement différents de nous. Bon, et concrètement, c'est ce qui permet l'évolution. Bon, voilà, donc ça c'est les mécanismes généraux, hein, je rentre pas dans le détail. Donc, voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui fait que les espèces évoluent, hein, parce que c'est quand même ma question, dans un sens plutôt que dans tel autre, qu'est-ce qui fait qu'elles évoluent à ce moment-là plutôt qu'à tel autre, et à quelle vitesse elles évoluent, etc. Bon, alors là concrètement, hein, là aussi ça paraît un petit peu évident, ça dépend de l'environnement. Voilà, l'environnement, alors c'est quoi l'environnement? Ben, c'est concrètement, est-ce qu'il y a de l'eau là où on habite? Est-ce qu'il y a de la nourriture? Parce que c'est quand même le problème numéro un de toutes les espèces espèce vivante depuis toujours, hein. Est-ce qu'il y a de la nourriture à proximité, ou est-ce que je suis capable d'aller la chercher? Est-ce que je peux m'abriter? Alors m'abriter contre, ben, alors contre les menaces qui sont en dessous, hein. Les menaces, ben, c'est le froid, c'est le chaud éventuellement, et puis c'est bien sûr les prédateurs, hein. Donc je disais, bon, est-ce que là où je vis, je trouve à la fois à manger sans risquer de me faire bouffer tous les 5 minutes? Voilà, hein. Donc ça fait, c'est ce qu'on appelle l'environnement, hein. Bon, voilà. Donc, alors, dans l'environnement, hein, il y a aussi des petites choses qu'on voit pas, des parasites, etc. Il y a sûrement plein d'espèces qui ont disparu, non pas parce qu'elles se sont fait bouffer par des plus gros, mais parce qu'elles sont, elles ont été malades, entre guillemets. Et même les parasites, on le sait, ça se développe, ben, en fonction de la température, du climat, etc. Bon, donc, voilà. Les espèces évoluent, elles dépendent, cette évolution dépend de l'environnement, et l'environnement dépend pour l'essentiel du climat. Donc, on va dire, hein, si on veut connaître un peu les détails de l'évolution des espèces, on est amené, on va dire, à s'intéresser à l'évolution du climat. Voilà, donc il faut qu'on parle, on va parler un petit peu maintenant d'évolution du climat sur donc les périodes qui nous intéressent, hein. On va remonter donc quelques millions d'années en arrière, progressivement, pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Alors, déjà, hein, pour des petites questions de vocabulaire évidentes, hein, il faut, tout le monde doit être d'accord, on ne confond pas ce qu'on appelle la météo. La météo, c'est quel temps il va faire demain à la fête de Presles, hein, et le climat, vous voyez, c'est des courbes un peu compliquées, mais bon, hein, on n'aura pas besoin de tous les détails. Mais enfin, si vous arrivez à voir l'échelle des temps, hein, là, les chiffres en bas, ce sont des dizaines et même des centaines de millions d'années, hein. Donc, on essaye, on va voir qu'on sait faire, hein, on essaye de connaître la température. Alors, ce seront toujours des températures moyenne, hein, la température qui faisait, par exemple, il y a 100 millions d'années. Voilà, hein, on va voir qu'on a des moyens de le savoir. Hein, il y avait évidemment pas de Monsieur Météo à l'époque, mais bon, on arrive à retrouver ce genre d'informations, et donc on va faire des courbes comme ça, et on pourra dire à tel moment il faisait vraiment froid, tel moment il faisait chaud, et puis à des moments, assez souvent, on dira, tiens, ça bouge beaucoup. Bon, voilà, hein, et on sera amené à faire des raisonnements à partir de là. Bon, alors donc, on parle un petit peu du climat de façon générale. Alors le climat, bah, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Hein, donc c'est j'allais dire c'est une science, c'est même plusieurs sciences compliquées qui agissent en interaction. Bon, donc là sur cette page, hein, bon, je mets la Terre au milieu et puis on se pose la question de quoi dépend le climat de la Terre. Ben, on constate qu'il dépend de plein de choses qui sont représentées ici et sûrement d'autres que j'ai oubliées. Bon, hein, vous avez le soleil, bien sûr. Bon, c'est quand même notre source de chaleur et d'énergie principale. Heureusement qu'il est là. Mais ce soleil, on le sait, il a une activité variable. Donc, le soleil, il est plus ou moins actif. Donc, on reçoit plus ou moins de chaleur, d'énergie, de lumière, etc. Hein, et bon, et donc, bon, je montrerai après un truc. On fait des photographies, on va dire, même aujourd'hui, hein, sur les 10 dernières années, par exemple, on regarde l'activité du soleil. Bon, c'est ça. Non, bon, alors je l'ai retiré. Non, je l'ai pas mis. Bon, je l'ai retiré. Bon, enfin, si on regarde, on va dire, on arrive à avoir des traces, on va dire, ou des photos même, hein, de l'activité du soleil des dernières années, et on constate que ça bouge pas mal. Et on sait que ça a bougé il y a plusieurs millions d'années et que ça va continuer à bouger beaucoup. Donc, c'est évident que l'activité du soleil, qui est quelque chose de très compliqué, va influer fortement sur le climat. Il n'y a pas que le soleil. Alors, hein, rapidement, je mets les océans, hein, voilà, donc ce qu'on appelle l'hydrosphère, les océans, par les courants marins, hein, par exemple, on dit que en France, notamment, hein, on bénéficie d'un climat plutôt tempéré parce que on est arrosé par le Gulf Stream, hein, qui est un courant marin plutôt chaud qui nous apporte de la chaleur, des tropiques, etc. Bon, voilà. Hein, donc, c'est le climat dépend de la mer, des courants marins. Or, on va le voir aussi, mais rapidement, les mers, ben, ça a bougé. Voilà, les mers, elles n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles sont plus ou moins profondes et elles sont pas toujours au même endroit. Bon, hein, parce que les continents ont bougé. Bon, donc, ça bouge aussi, ça. Ben, ce qui bouge, j'ai commencé à en parler, ben, c'est les montagnes, c'est les terres, c'est les terrains. Et on sait que la géologie, la tectonique des plaques, etc., tout ça bouge. Les continents bougent, ça fait des montagnes. Les montagnes, ça perturbe les courants d'air. Il y a des mers qui s'ouvrent et qui se referment. Hein, je me donnerai un petit exemple. Bon, et tout ça, évidemment, ça a beaucoup modifié la météo. Je vous rajoute en haut à droite l'activité volcanique, bon, qui a eu apparemment, alors là, des effets qu'on peut qualifier de catastrophiques à plusieurs étapes de la vie. Hein, on estime, par exemple, que si les dinosaures ont disparu, c'est sans doute, on va dire, notamment à cause d'une activité volcanique, mais gigantesque, hein, qui a duré plusieurs milliers d'années, etc. Hein, c'est pas juste une éruption de quelques jours. Bon, voilà. Il y a aussi d'autres théories sur les météorites, mais enfin, ça n'empêche pas. On sait que l'activité volcanique, à plusieurs reprises, a fait disparaître des très grands nombres d'espèces. Voilà. Et puis, bon, après, il y a l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe, les gaz à effet de serre, etc. Bon, c'est des choses compliquées, tout ça. Bon, alors, il y a des gens qui les étudient. Hein. Nous, on ne va pas les étudier, mais on va en parler un petit peu. En fait, on va plus les illustrer. Alors, là, je commence par un exemple qui est un tout petit peu spectaculaire et qui a l'intérêt de ne pas être trop loin dans le temps. Hein. Donc, on va dire, on aurait presque pu le connaître. En tout cas, nos prédécesseurs, c'est-à-dire Sapiens, hein, comme par exemple, quand ils étaient en France il y a 20 000 ans, ben, ils étaient concernés par ce phénomène. Alors, il y a 20 000 ans, ben, on est dans ce qu'on appelle la dernière grande glaciation. Alors, histoire de se rendre compte de c'était quoi le climat il y a 20 000 ans, hein, vous avez ben, par exemple les deux terres qui sont représentées, on a une vue de l'hémisphère nord, vous voyez, on va dire sur le schéma de droite, c'est l'espace qu'occupent les glaces actuellement, concrètement le pôle nord et le Groenland, et puis vous avez à gauche l'espace, alors évidemment c'est grossier, hein, mais ça ressemblait à ça, l'espace qu'occupaient les glaces, les glaciers, il y a 20 000 ans. Bon, et vous voyez que c'est considérablement plus important. Si vous regardez le schéma à droite, si on s'intéresse à l'Europe, puisqu'on y est, on va dire, vous voyez que les glaciers descendaient ben, jusqu'à la Belgique, même le nord de l'Europe, les deux tiers de l'Angleterre étaient sous la glace, et quand on dit sous la glace, c'est pas 3 cm de neige, hein, c'est des centaines de mètres de glace. Voilà, hein, bon, on a évidemment du mal à s'imaginer ça. Voilà, donc hein, il y a 20 ou 18 000 ans, la moitié de l'Europe était recouverte par la glace. Bon, là, tout n'est pas représenté, mais par exemple, les Alpes étaient entièrement recouvertes quasiment par des glaciers. Hein, bon, voilà. Alors, c'est pas si lointain. Alors, ce qui va être spectaculaire comme... oui, alors voilà, je dis le glacier des Alpes, par exemple, il allait jusqu'au Lyon. Bon, voilà. Hein. Alors, la courbe que vous voyez en dessous des deux terres rondes, là, c'est une courbe de température. Alors, je vais vous en montrer un certain nombre de courbes de ce genre-là. Donc, actuellement, hein, on est à droite. Alors, vous embêtez pas avec le 2050. Là, c'est le point rouge bon, qui est hors sujet hein, pour ce qu'on fait. Ce qui m'intéresse, c'est la ligne rouge à peu près horizontale. Donc, ce qu'on constate, c'est aujourd'hui, on est, on va dire, dans un climat tempéré et on y est depuis à peu près 10 ou 12 000 ans. Hein, si vous regardez la courbe, c'est ce qui est marqué là en rouge, Holocène optimal, c'est-à-dire qu'en gros, il fait, alors on ne va pas dire chaud, mais on est dans une période de climat tempéré depuis une dizaine de milliers d'années. Mais si on descend à 20 000 ans, ben là, on voit qu'on était au moins 6 degrés en dessous. Alors je répète, tout ça c'est des températures moyennes. Hein. Faut pas comparer la température du mois de juillet. Voilà, c'est des températures annuelles moyennes. Et 6 degrés de moins, c'est énorme. Hein. Bon, il y en a qui disent que c'est 4, il y en a qui disent que c'est 8, etc. Mais enfin, ça suffit, hein, pour être concret, ça suffit à faire que, je vous répète, il y avait des glaciers qui recouvraient la Belgique, par exemple. Bon, alors, donc ce genre de courbe, hein, je vais le remontrer, je vais en montrer d'autres du même genre. Alors voici une des conséquences. Hein. Ben, il y a 20 000 ans, par exemple, c'était quoi la Manche? Ben, c'était une rivière qui coulait dans une plaine. Voilà, la Manche n'était pas une mer, c'était, alors vous voyez, hein, on a dessiné les côtes de la France, les côtes de l'Angleterre, il y avait le glacier là, hein, qui descendait pas très loin là, et donc la Manche, ce qu'on appelle aujourd'hui la mer Manche, était en fait le nom d'un fleuve, voilà, un fleuve aujourd'hui disparu, hein, bien sûr, mais qui a existé d'ailleurs à plusieurs reprises, parce que ce que je vous montre là, ça s'est fait à plusieurs reprises, on sait pas combien, hein, mais on est sûr que ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire du climat. Bon, ben, alors c'est quoi l'explication? Ben, c'est ce qui est écrit en haut, c'est que la mer, le niveau de la mer, à l'échelle mondiale, hein, était une centaine de mètres plus bas. Bon, là aussi, on a un peu du mal à imaginer. C'était il y a que 20 000 ans, hein, 100 mètres en moins sur le niveau de la mer. Donc ça, bah, du coup, on comprend. Hein. Alors, ça a une conséquence importante, évidemment, pour les espèces. C'est que des espèces, par exemple nos ancêtres qui à cette époque vivaient en France, évidemment ça s'appelait pas la France, hein, mais voilà, qui vivaient sur le territoire actuel de la France, ben traversaient en Angleterre entre guillemets, bon, mais sans s'en apercevoir, hein, parce que voilà, en fait ils se promenaient, et donc on a découvert, hein, là je parle de notre espèce, mais je répète, c'était le cas par exemple il y a 500 000 ans, etc. C'était pareil, hein, donc il y avait des espèces, nos ancêtres, mais aussi des tas d'autres animaux qui vivaient de façon, on va dire, simultanée des deux côtés de ce qu'on appelle aujourd'hui la Manche. Bon, alors, autre petite illustration du même phénomène. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de la grotte Cosquer. C'est une grotte qui a été découverte, je ne sais plus quand, mais enfin, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, hein, et qui a été occupée, alors, à deux époques, hein, 19 000 et 27 000 ans. Bon, mais enfin, 19 000, je l'ai dit, ben, c'est dans la période où il faisait très très froid, et 27 000, il faisait quasiment aussi froid, bon, un peu moins, mais il faisait déjà pas mal froid. Alors, ce qui est un petit peu spectaculaire, c'est que cette grotte, si vous en avez entendu parler, en fait, c'est une grotte sous-marine, aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, vous avez le schéma à droite, là, l'entrée de la grotte, il est à 37 mètres sous le niveau de la mer. C'est-à-dire que les plongeurs doivent descendre à 37 mètres sous l'eau. Bon, après, ils remontent un petit peu pour atteindre cette grotte. Bon, évidemment, à l'époque où les Homo sapiens sont rentrés dans cette grotte et ont fait des peintures murales, évidemment, il n'y avait pas la mer à cet endroit-là. Ben, l'explication, je l'ai déjà donnée, c'est que le niveau de la mer était, ben, je l'ai dit, hein, une centaine de mètres plus bas. Donc, en fait, cette grotte, elle se trouvait à une cinquantaine de mètres de hauteur et surtout, elle se trouvait à plusieurs kilomètres de la mer. Hein, donc, voilà, en fait, hein, c'est, on va dire, la preuve que les choses ont bien bougé, hein, ne fût-ce qu'en 20 000 ans. Une autre petite preuve, hein, c'est en bas à droite, hein, c'est une des gravures qui a été retrouvée dans cette grotte. Bon, alors c'est un pingouin. En fait, c'est même ce qu'on appelle un grand pingouin. Le grand pingouin, c'est une espèce qu'on connaît, hein, ça vit en mer du Nord. Bon, et là, c'est en Méditerranée, hein, c'est Marseille, hein, c'est les calanques marseillaises. Bon, ça veut dire que ben, Marseille devait ressembler à la mer du Nord, enfin la Méditerranée à l'époque devait ressembler à la mer du Nord, vu sa température. Bon, alors, vous avez donc le schéma, la courbe là, donc c'est le niveau de la mer, hein, donc vous voyez le niveau de la mer moyen actuel, et quand vous remontez dans le temps en arrière, hein, vous voyez ici, il y a 20 000 ans, donc la mer était vraiment 120 mètres plus bas. Alors, hein, donc 27 000, etc., voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 120 000 ans, ben, le niveau de la mer était similaire à ce qu'il est aujourd'hui. Bon, et ça, en fait, on va s'apercevoir que ça s'est produit, je l'ai déjà évoqué, plusieurs fois, et même de façon assez régulière. Bon, c'est ce qu'on va appeler des cycles climatiques. Alors, voilà, donc, là, vous voyez, je prends une échelle de temps un petit peu plus longue sur 400 000 ans, hein, environ. On s'intéresse à ce qui s'est passé au niveau climatique depuis 400 000 ans. Donc, toujours pour qu'on comprenne la courbe, hein, nous, on est à droite, le trait rouge, on va dire, enfin, les graffitis rouges, là. Depuis une dizaine ou 12 000 ans, nous sommes dans une période dite temporaire. Alors, le terme technique, on dit qu'on est dans un interglaciaire. Sous-entendu, on est entre deux glaciations. Voilà. Donc, la glaciation, ben, j'en ai parlé, il y a 20 000 ans, c'était une glaciation. Mais sous-entendu, dans, alors, on ne sait pas exactement, 10, 20, 30, 50, 100 000 ans, ben, il y aura une autre glaciation. C'est une quasi-certitude. Voilà. Alors, en fait, quand on remonte le temps, ben, on s'aperçoit qu'il y a eu des successions de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. Alors, vous voyez que c'est régulier, hein. Donc là, par exemple, c'est tous les 100 000 ans. Alors, c'est pas à 10 000 ans près, hein, mais à peu de choses près. Vous voyez, se répéter, tous les 100 000 ans, il y a, on va dire, une période où la température est modérée, ce qu'on appelle l'interglaciaire. Alors, cette période, elle est courte, hein, elle fait entre 10 et 30 000 ans. Voilà. Or, là, je l'ai dit, nous, ça fait 10 000 ans qu'on est dans l'interglaciaire. Ça veut dire qu'il nous reste entre 0 et 20 000 ans, à peu près, statistiquement, pour profiter, on va dire, du climat tempéré. Parce qu'après, on va redescendre vers une période glaciaire. Bon, sauf s'il se passe d'autres choses, hein, et on maîtrise pas tout, et bon, ben, on est même peut-être capable de modifier ce climat. Ça, c'est un autre sujet. Bon, donc, nous sommes, hein, je répète, nous sommes dans une période interglaciaire, précédée d'une période glaciaire qui a duré 80-90 000 ans, elle-même précédée d'un interglaciaire, elle-même, etc. Bon, donc là, ce qui m'importe, c'est pas les détails, les chiffres, les dates, etc. C'est de voir, premièrement que ça bouge beaucoup, hein, donc 6 degrés, voilà, que ça bouge alors pas très vite, hein, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'années, mais bon, voilà, ça bouge et c'est, on va dire, on peut anticiper un petit peu en disant que les espèces animales, dont la nôtre, qui vont être confrontées à ces variations de climat, ils ont intérêt à s'adapter. Voilà, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas facile de vivre dans un environnement, même si c'est sur une longue échelle, hein, qui varie autant. Alors, j'augmente un petit peu l'échelle des temps. Là, vous voyez, je m'intéresse à plusieurs millions d'années en arrière. Hein, donc, encore une fois, nous, on est à droite. Alors là, ça devient un petit peu compliqué à lire. Vous voyez, hein, donc ce qui est marqué 100 KYR, hein, ça veut dire centaines de milliers d'années. Donc, ce sont des cycles, hein, parce que c'est des courbes en anglais, mais enfin, ce sont des cycles de 100 000 ans. Alors ça, en gros, jusqu'à il y a 1 million d'années, bah, c'était ce que je vous ai représenté avant, hein, sur la page d'avant. C'est des variations glaciaires, interglaciaires, avec un rythme à peu près d'une fois tous les 100 000 ans, à peu de choses près. Voilà. Alors, ce que vous constatez, c'est qu'avant, c'était un autre cycle. Bon, alors ça, c'est très technique, hein, on en dira quelques mots, mais enfin, bon, c'était un cycle de 41 000 ans, peu importe. Mais surtout, ce que vous constatez, c'est que il y a une différence, hein, j'ai mis la ligne jaune au milieu pour qu'on voit un petit peu la différence. Il y a une différence entre, alors, ce qu'on appelle le quaternaire, c'est l'échelle, on va dire, l'ère géologique dans laquelle nous vivons depuis 2,6 millions d'années. Nous sommes dans le quaternaire, avant il y avait le tertiaire, avant le secondaire, avant le primaire. Donc nous sommes dans l'ère quaternaire, et ce quaternaire, en fait, globalement, c'est ce qu'on appelle un âge de glace. Donc en fait, hein, nous sommes actuellement dans l'âge de glace du quaternaire, sous-entendu avant... C'était autre chose. Alors, c'était pas le quaternaire, mais surtout, c'était pas la même température. Donc, si vous regardez, grosso modo, alors attention, hein, là, c'est pas des températures exactes, hein, c'est des valeurs relatives, mais vous constatez que depuis 2,6 millions d'années, alors ça bouge beaucoup, mais grosso modo, nous sommes en dessous de la moyenne de la période précédente. Donc, c'est ce qui nous permet de dire, nous sommes dans un âge de glace. Alors, un âge de glace, ça veut dire concrètement, je l'ai marqué en dessous, voilà. Là, c'est que, quelle que soit la période de l'année, on va dire la saison, il reste des glaces à la surface de la Terre. Bon, aujourd'hui, on sait, hein, quelle que soit la météo annuelle, etc., il y a toujours des glaces au Groenland, en Antarctique, au pôle Nord, voilà, et même au sommet des montagnes. Voilà. Hein, donc ça veut dire que c'est un âge de glace. Sous-entendu, il y a eu des tas d'autres périodes. Par exemple, quand vivaient les dinosaures, il n'y avait pas de glace du tout à la surface de la Terre, parce que la température moyenne, hein, était largement supérieure. Bon, donc voilà, hein, donc c'est, on va dire, on s'aperçoit à la louche, hein, non seulement ça varie beaucoup, mais ça varie de façon un petit peu compliquée. Voilà, hein, donc il y a des... Alors, quand je dis compliqué, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas le hasard. Il y a des règles. Alors les règles, on essaye de les comprendre, on essaye de les étudier. Alors avant d'étudier les règles, voilà, un petit paragraphe entre guillemets sur quels sont les moyens qu'on a de connaître le climat. Parce que j'ai dit, on arrive à connaître le climat. Comment on fait ? Comment on sait qu'il faisait 6 degrés de moins à telle époque, etc. Alors il y a des tas de techniques, hein, je vais pas tout détailler, bien sûr, mais la principale, on va dire, hein, c'est l'étude des sédiments. Concrètement, on creuse des trous très profonds, alors dans les terres, mais en fait surtout au fond des mers, voilà. Et ben on regarde ce qu'on récupère, voilà. Et plus c'est profond, ben plus c'est vieux, entre guillemets. Pourquoi c'est vieux ? Parce que dans le fond des mers, c'est vrai aussi à la surface de la terre, mais c'est surtout vrai au fond des mers. En fait, se sont déposés au fur et à mesure des centaines de milliers, des millions d'années, se sont déposés les coquilles des animaux marins, du plancton, hein, pour faire simple. Donc on va en parler juste après. Et en fait, ce qu'on récupère quand on récupère une carotte de sédiments marins, ce sont, on va dire, les coquilles, les squelettes, on pourrait dire, mais les coquilles, parce que c'est pas des squelettes, ce sont les coquilles, on appelle ça des tests, hein, c'est du calcaire, hein, c'est essentiellement, enfin voilà, on récupère ça sur plusieurs centaines de milliers d'années, même plusieurs millions d'années. Et à partir de là, on va réussir, alors c'est un tout petit peu technique, on va réussir à comprendre quelle était la température. Bon, alors, là aussi, je vais essayer de pas être trop compliqué. Il y a deux éléments, hein, voilà, vous imaginez, on a récupéré une carotte, on a creusé le fond marin à des milliers de mètres de profondeur, hein, et on récupère, on analyse le calcaire, les coquilles qu'on a récupérées à ce moment-là. Alors ce qu'on constate, ça on le sait parce que c'est toujours vrai, en fait, il y a dans le plancton, il y a des espèces qui aiment bien les eaux chaudes et des espèces qui aiment bien les eaux froides. Bon, ben, en fait, on les compte. Voilà. On fait le tri, hein. Ils arrivent à faire le tri et ils disent, bon, ben, là, il y avait beaucoup d'espèces d'eau froide, donc c'est qu'il faisait froid. Là, il y avait beaucoup d'espèces d'eau chaude, donc c'est qu'il faisait chaud. Voilà. Bon, donc, je simplifie sûrement énormément, mais enfin, c'est un premier indice. On arrive avec ça à faire des courbes. Voilà, hein, du genre de ce que vous voyez. Alors ça, c'est ce qui est marqué pourcentage A et B. Voilà. Et puis, un autre truc un petit peu plus compliqué, c'est que, quelle que soit l'espèce, j'ai dit, en fait, les coquilles, c'est du calcaire. Le calcaire, c'est du carbone, etc., mais c'est aussi de l'oxygène. Donc, hein, pour composer le calcaire des coquilles de ce plancton, il faut de l'oxygène. Et donc, bah, en fait, on arrive à déduire indirectement les propriétés de l'oxygène à l'époque en question. Et là, bon, c'est le schéma de droite qui est un tout petit peu plus compliqué. Alors, l'oxygène. Tout le monde dit, l'oxygène, je connais, c'est un atome, etc. Bon, en fait, ce qu'on appelle couramment l'oxygène, c'est O16. C'est ce qu'on appelle l'isotope 16 de l'oxygène. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, la matière, hein. Il y a donc des isotopes, il y a des atomes d'oxygène qui sont un peu différents. On va appeler ça O18, peu importe la différence, hein. Donc c'est au niveau physique, on va dire, c'est un peu différent. Alors ce qu'on peut quand même dire comme différence, c'est que le O18, l'atome d'O18 est plus lourd que l'atome O16. Bon, alors on va essayer de suivre le raisonnement. Voilà. Alors là, on s'intéresse à ce qui se passe dans les océans, hein, on va dire essentiellement, ou dans l'eau en général, mais enfin dans les océans en particulier. Donc, dans les océans, il y a de l'oxygène, voilà, beaucoup d'oxygène. Il y a un mélange d'O16 et d'O18. Bon, il y a énormément d'O16, hein, vous voyez, c'est 99, etc. et 0,2% d'O18. L'eau s'évapore, voilà, hein, ça, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il y a de l'évaporation, évidemment, plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation, mais c'est même pas le problème. Donc l'eau s'évapore, et comme je l'ai laissé entendre, l'isotope 18 est plus lourd que l'isotope 16. Donc concrètement, il s'évapore majoritairement de l'eau 16, voilà, hein, de l'oxygène, on va dire, normal, parce qu'il est plus léger. Alors, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe quand il fait froid. Alors, on sait que l'oxygène, bon, donc, on va dire, monte, entre guillemets, ça forme de la vapeur d'eau, mais qui contient, donc, ces isotopes d'oxygène. Sa vapeur d'eau va finir par condenser, par former de la pluie, et cette pluie, ben, va tomber partout. Et c'est là qu'interviennent les périodes de froid. Donc, quand il fait très froid, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette eau de pluie, qui est chargée de beaucoup d'oxygène 16, va tomber sur des sols froids et va glacer, c'est-à-dire qu'elle va être stockée dans des glaciers, dans la banquise, mais surtout dans des glaciers en Antarctique, etc. Je rappelle, j'ai montré des cartes, il y a des époques, les glaciers, ils recouvraient, on va dire, un quart, voire plus, hein, d'ailleurs, de la Terre. Donc ça veut dire que les glaciers vont stocker, si vous avez suivi un peu le raisonnement, vont stocker plus d'oxygène 16 que d'oxygène 18. Le résultat concret, c'est que dans l'eau, va rester une proportion plus importante d'oxygène 18. Bon, peu importe si vous n'avez pas suivi tout le raisonnement, mais concrètement, c'est en mesurant, puisque cet oxygène 18, je l'ai dit, cet oxygène, de façon générale, il va servir à construire les coquilles du plancton. Donc vous imaginez, vous êtes un plancton, vous consommez pour construire votre coquille de l'oxygène. S'il fait très froid, voilà, s'il fait froid, une majorité d'oxygène 16 est stockée dans la banquise, dans les glaciers, etc. Donc il y a beaucoup d'oxygène 18 et ça se voit dans votre coquille. Voilà, hein, pour faire simple, c'est comme ça. Et donc quand on analyse les coquilles du plancton, ben on sait qu'il faisait plus ou moins froid. Voilà. Hein, donc, et par comparaison, etc., on est capable de dire il faisait 5 degrés de plus, 5 degrés de moins, etc. Bon, en fait, c'est ce qui explique. Hein, je reprends une des courbes peut-être que j'ai montrées. Voilà. Si vous regardez la légende à droite, hein, c'est en anglais, mais enfin, c'est bien marqué 18 O. Voilà. En fait, ce qu'on mesure, c'est bien la proportion, on va dire, d'oxygène 18. Voilà. On va dire c'est une mesure indirecte de la température. Bon, voilà, c'est juste pour dire, c'est pas pipeau, on sait mesurer la température il y a plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'années. Plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'années. Alors sinon, on a d'autres moyens, hein. Alors, je passe plus rapidement, parce que c'est moins critique. On fait aussi des carottes de glace, hein. On va dans l'Antarctique ou au Groenland et on creuse des carottes de glace, hein, les plus profondes, ils vont à 3600 mètres. Hein, ça, c'est en Antarctique. Hein, ils vont au sommet de l'Antarctique, ils font des trous et récupèrent des carottes de glace. Et les carottes de glace, en fait, c'est juste de la neige qui s'est empilée, hein, qui s'est entassée, et bah, il reste des trous. Et ces trous, c'est des bulles d'air.
Donc en fait, si vous avez compris le raisonnement, quand vous allez très profond, en fait, vous recueillez des bulles d'air d'il y a des plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà. Et donc, vous récupérez l'atmosphère d'il y a plusieurs milliers ou centaines de milliers, voire plusieurs millions. Non, ça s'arrête à 1 million d'années à peu près. Hein. Bon, plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, ben, vous analysez, c'est un peu le même problème que tout à l'heure, vous pouvez analyser sa composition chimique, isotopique, etc. Et ben, savoir si l'air était plus ou moins froid. Voilà. Hein, bon. Donc, tout ça, c'est des techniques, des technologies hein, qui se sont beaucoup développées et qui permettent d'avoir des idées assez précises. Alors, je reviens sur un schéma de principe. Donc, hein, j'ai dit, le climat va dépendre d'un tas de choses. Alors, j'ai commencé à parler de certaines, mais enfin, je vais revenir sur certaines. Hein, mais là, c'est encore un aperçu. Donc, l'activité solaire, on va voir que ça dépend beaucoup de la position de la Terre par rapport au Soleil. Voilà. Ça dépend de l'océan, ça dépend des volcans, ça dépend de la glace, j'en ai parlé. Ça dépend évidemment de la végétation qui va consommer du gaz, qui va en rejeter, etc. Bon, et tout ça, c'est de la chimie. Bon, alors, donc c'est compliqué. Hein, mais voilà. Alors là, je m'intéresse à un phénomène qui est sans doute très déterminant. En fait, c'est celui qui nous permet de voir des courbes à peu près régulières, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil sous forme d'ellipse, hein, voilà. Bon, alors l'ellipse, là, elle est exagérée, hein, mais bon, il y a une ellipse, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la Terre, par exemple, elle n'est pas perpendiculaire, pardon, au plan de l'ellipse. En fait, la Terre, elle est penchée. Voilà, il y a une inclinaison, qu'on appelle une obliquité. Donc, la Terre est plus ou moins penchée. Et ça, évidemment, comme cet angle varie dans le temps, alors dans le temps à l'échelle de milliers, de millions d'années, etc., ben en fait, il fera pas la même température parce qu'on recevra pas la même quantité d'énergie, de chaleur, etc. C'est le phénomène des saisons. Hein. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la précession. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, la Terre, si vous regardez la petite animation, elle se comporte comme une toupie. Hein. Elle tourne comme ça, sur elle-même, etc. Bon, donc tout ça fait que, selon la période, hein, vous recevez pas la même quantité de chaleur du soleil. Bon, et concrètement, alors c'est un exemple un peu concret, par exemple actuellement, hein, c'est le schéma en bas, on est pendant l'hiver, on est, ça peut paraître étonnant, mais plutôt proche du soleil dans l'ellipse. Mais comme on est incliné d'une certaine façon, l'hiver est chaud. Voilà. Il se trouve qu'il y a 11 000 ans, bah, c'était l'inverse. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'était l'été quand on était près du soleil. Bon, c'est pour dire que les saisons, ça bouge beaucoup. Hein, là aussi, on n'a pas besoin des détails. Parce que l'astronomie, les mouvements des planètes, de la Terre en particulier, du soleil, etc. Voilà. Alors, il y a d'autres phénomènes plus compliqués que cela. Mais enfin, alors, tous ces phénomènes, là aussi, hein, il n'est pas question de les étudier. Mais les gens qui les étudient, ils rentrent tout ça dans ce genre de courbe. Alors, hein, bon, là, la première ligne, c'est la précession, c'est la toupie, voilà, qui elle-même, on connaît hein, le mouvement de la toupie de la Terre, précisément, ça on connaît. L'obliquité, c'est-à-dire l'angle que fait la Terre avec par rapport à l'axe nord-sud. L'excentricité, hein, c'est le fait que l'ellipse est plus ou moins ronde, ou plus ou moins étalée, on va dire. Vous rajoutez à cela l'activité du soleil, hein, ce qu'ils appellent le solar forcing, voilà, et tout ça, bah, vous passez ça dans un ordinateur, vous faites des calculs, etc., bah, ça vous donne des courbes du genre de celles qui est en bas, et on s'aperçoit que ces courbes correspondent à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, à évidemment un peu de choses près. Bon, on voit des cycles, voilà. Alors ça, c'est, il y a des gens qui ont donné leur nom, hein, ça s'appelle des cycles de Minkowicz, donc hein, c'est un scientifique qui a dit, voilà, c'est normal qu'on voit des changements climatiques très réguliers. Plutôt régulier, plutôt cyclique, parce que telle et telle raison. Voilà, donc on a, on va dire, des explications hein, à ce phénomène. Alors, les autres explications, je vais passer vite, hein, parce que hein, je l'ai dit, c'est de la chimie. Alors, c'est de la chimie compliquée. Hein, dans l'atmosphère et dans l'eau, je l'ai dit, il y a de l'oxygène, il y a du gaz carbonique, il y a du méthane, il y a du dioxyde de soufre, etc. Bon, tout ça, ça fait de la chimie et ça influe fortement sur la météo, sur le climat, pardon. L'activité biologique, mais ça, c'est lié au phénomène précédent. Hein, on sait que les plantes consomment du CO2, mais elles en rejettent aussi. Alors en fait, c'est l'océan hein, qui consomme le plus de CO2 parce que l'océan, il y a du plancton, hein, plus que les forêts par exemple. Hein. Bon, et c'est en fait, c'est eux qui bouffent la majorité du CO2. Mais si l'océan s'appauvrit en vie, il bouffe moins de CO2, donc etc. Bon, voilà. Des choses qui sont moins connues, par exemple les roches. Les roches absorbent énormément de CO2. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est de la chimie, c'est de la physique, mais bon, hein, il y a quand même des gens spécialisés spécialistes pour en parler. Autre phénomène, j'ai laissé entendre qu'il pouvait avoir une influence, c'est la géologie, le fait que les continents bougent. Bon, hein, donc là aussi, c'est un tas de phénomènes. Il y a de l'activité volcanique. Là, par exemple, le schéma en bas à droite, hein, c'est que tout le monde a entendu parler de la constitution peut-être de l'Himalaya. Bah, c'est quand l'Inde, qui n'était pas rattachée à l'Asie, était une île, hein, et elle s'est rapprochée petit à petit de l'Asie. Elle est rentrée en collision avec le continent asiatique et ça a formé l'Himalaya, ça a formé un pli. Et des phénomènes comme ça, il y en a eu... sans arrêt, alors ça va lentement, mais il y en a eu beaucoup. Voilà. Le grand schéma en haut à droite, hein, c'est à quoi ressemblait la Terre il y a 200 millions d'années. Bon, ça ressemble pas du tout au continent que l'on connaît aujourd'hui, parce que tout ça a bougé. Voilà. Alors un exemple un peu spectaculaire, hein, c'est pas très très lointain, 5,6 millions d'années. Ben, la Méditerranée, en fait, elle était à sec, quasiment à sec, hein, la Méditerranée. Alors l'explication, c'est quoi? Au départ, la Méditerranée, elle était en liaison à la fois avec l'océan Atlantique, par ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar, mais aussi avec l'océan Indien. Donc le lien avec l'océan Indien, il a déjà été fermé il y a longtemps. Il se trouve qu'il y a 5,6 millions d'années, l'Afrique est remontée vers, on va dire, l'Europe. Elle a fermé le détroit de Gibraltar. Ça veut dire que la mer Méditerranée s'est retrouvée isolée des océans. Or, il se trouve qu'en plus, c'est une période où il faisait... froid. Alors froid, faut refaire le raisonnement, froid, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui reste stockée dans les glaciers. Cette eau qui reste stockée dans les glaciers, ben, on ne la retrouve pas dans les mers, dans les rivières, etc. Voilà. Et du coup, la Méditerranée n'avait plus d'apport des océans, n'avait plus d'apport suffisant des rivières, etc. Ben, petit à petit, elle s'est asséchée. En fait, elle est devenue très, très, très salée. Ils ont retrouvé au fond de la Méditerranée des couches de sel de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ben, parce que, en fait, toute l'eau s'était évaporée. Alors, quand je dis tout, c'est pas tout à fait vrai. Hein, ça devait ressembler à ça, on n'en sait rien. Hein. Enfin, on n'en sait rien. Si, on en sait des choses quand même. Mais bon, on ne sait pas, ils sont pas tous d'accord, il y en a qui disent qu'elle était complètement à sec, il y en a qui disent non, il en restait quand même pas mal, etc. Alors par contre, ce qui est sûr, là aussi, si je m'intéresse aux espèces, ben vous voyez, il n'y a aucun obstacle à ce qu'à cette époque et à d'autres similaires, parce que ça aussi, ça s'est produit à plusieurs reprises, des animaux qui, par exemple, vivaient en Afrique se sont retrouvés en Europe. Bon, ben, on comprend, on n'est pas étonné de savoir qu'il y a des éléphants africains qu'on a retrouvés sur des îles de Méditerranée. Alors, en fait, des fossiles, hein, ben, pas des éléphants eux-mêmes, ils avaient disparu depuis longtemps. Mais l'explication, c'est que la Méditerranée, c'était pas une mer. À certaines époques, c'était pas une mer. Bon, donc tout ça pour dire, non seulement que le climat bouge beaucoup, et que ça a des grosses conséquences. Alors, parmi les autres phénomènes, hein, mais là aussi, c'est toute une science, il y a les courants marins, hein, j'en ai un peu parlé. Vous voyez, par exemple, le Gulf Stream, hein, c'est celui qui remonte, on va dire, des tropiques et qui vient près de la France et de l'Angleterre et qui nous apporte un climat relativement tempéré. Voilà. Alors, tout ça, ça bouge, hein, puisque les continents bougent, il y a des courants qui s'arrêtent, qui repartent, machin, etc. Bon, et donc, ça change le climat. Bon, alors tout ça, hein, voilà, ça fait un schéma qu'on va pas étudier, mais ça fait quelque chose de compliqué. Voilà. Et bon, mais on arrive quand même à avoir une petite idée, hein, et je vous dis, on a des mesures pour ça. Bon, alors maintenant, donc on a parlé de deux choses. On a commencé par l'évolution des espèces rapidement. J'ai passé un petit peu plus de temps sur l'évolution du climat. Hein, là, j'ai mis le nom des sciences qui s'intéressent à ça. Hein. Donc, quand on s'intéresse à l'histoire des climats anciens, on fait de la paléoclimatologie, et quand on s'intéresse à l'évolution des espèces, on fait de la paléontologie. Et si on s'intéresse spécifiquement à l'évolution des espèces humaines, on fait de la paléoanthropologie. Bon, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les liens, les relations qui existent entre l'un et l'autre. Donc sur le principe, tout le monde est d'accord, hein, c'est un peu évident, comme je l'ai laissé entendre, hein, on dépend évidemment des ressources, donc de l'environnement. L'environnement dépend du climat, donc c'est évident que ça a un impact important. Mais on essaye de savoir plus en détail pourquoi à tel moment, pourquoi dans telle direction, etc. Bon, alors, je vous donne un exemple, hein, mais juste une page. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Pour illustrer le fait que le climat a beaucoup influé sur les espèces, bon, bah, c'est la disparition des dinosaures, hein, il y a 65 millions d'années. C'est ce qu'on appelle une extension massive. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la vie. Hein, des extensions plus graves que ça, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Il y a 250 millions d'années, par exemple, hein, 90% des espèces de la en mer ont disparu et 70% des espèces terrestres. Hein, bon, donc voilà, à plusieurs reprises, la vie a failli disparaître. Bon, voilà. Hein. Alors, les dinosaures, c'est connu. Les raisons. Hein, donc là, vous voyez, hein, on dit c'est peut-être une météorite, c'est peut-être une éruption volcanique, c'est sûrement les deux en même temps, etc. Bon, toujours est-il que ça a fortement influé sur le climat. Concrètement, il s'est mis à faire sombre et froid. La végétation a périclité. Les animaux qui mangeaient la végétation, c'est-à-dire les végétariens, les dinosaures végétariens, ont disparu. Et les carnivores, etc., qui mangeaient les végétariens, ont disparu avec. Hein, bon, donc voilà, tout ça a été assez vite. C'est pour ça que c'est spectaculaire. Bon, mais la plupart du temps, c'est pas aussi spectaculaire que ça. Et donc, ben, on en revient à notre sujet. Pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, bon, donc il n'y a pas eu de catastrophe, mais il y a eu quand même des évolutions climatiques qui expliquent nos évolutions. Donc, à nouveau une galerie de portraits, mais enfin, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Alors voilà. Donc, je remonte une courbe. Alors, celle-là va beaucoup me servir, entre guillemets. Alors là, qu'est-ce qu'on représente? On s'intéresse à la dizaine de millions d'années. Hein, la dizaine de derniers millions d'années, la dernière dizaine de milliers d'années. On va y arriver. Voilà, donc nous, on va dire à gauche, c'est la période actuelle, et puis on remonte dans le temps jusqu'à 8 ou 9 ou 10 millions d'années. Et puis on regarde l'évolution du climat, hein, voilà, puisque je vous dis, on a des moyens de mesurer cette évolution climatique. Alors, grosso modo, ce qui va être important de voir, voilà, c'est que avant 6 millions d'années, hein, on va dire entre 6 et 9 ou 10 millions d'années, ça bougeait, mais pas beaucoup, voilà. Par ailleurs, c'était plutôt chaud. Donc on peut dire entre 6 et 10 millions d'années, le climat global à l'échelle de la planète était plutôt chaud. Alors après, il va falloir s'intéresser spécialement à l'Afrique, parce que c'est quand même là que tout s'est passé pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Le climat africain était plutôt chaud et humide, concrètement des forêts. Voilà. Et ça va évidemment avoir un impact. Ce que l'on constate, c'est qu'à partir de 6 millions d'années, en fait, il va y avoir deux choses. Donc il va y avoir... Alors, un refroidissement à l'échelle de la planète. Je refais le raisonnement. Si ça se refroidit à l'échelle de la planète, ça veut dire que les glaciers stockent de plus en plus d'eau. Ça veut dire que le niveau des mers baisse. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins d'humidité dans la pluie, dans les rivières, etc. En fait, l'eau, elle est stockée en bonne partie, on va dire, dans les glaciers. Concrètement, ça, on en est sûr, ça s'est traduit pour l'Afrique, parce qu'après, le reste, c'est autre chose, pour l'Afrique... Pardon, ça s'est traduit par un assèchement. Alors quand je dis un assèchement, par des assèchements. Donc concrètement, hein, quand il fait froid à l'échelle de la planète, ça se traduit, mais c'est caricatural, par un assèchement en Afrique. Il fait pas froid en Afrique, hein. Il n'y a pas eu à cette époque-là, en tout cas, de glaciers en Afrique. Ceci dit, on est persuadé qu'il y a très 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 longtemps, il y avait des glaciers en Équateur. Au niveau de l'équateur, voilà, hein, il y a 700 millions d'années, voilà, on a des preuves qu'il y avait des glaciers à l'équateur. Bon, donc là, on n'est pas du tout là, hein, grosso modo, on va dire qu'il faisait une température tropicale qui ressemble sûrement à ce qui est l'Afrique équatoriale tropicale actuelle, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est que à partir de 6 millions d'années, donc il y a eu un refroidissement, donc un assèchement. Et aussi, alors voilà, c'est là que ça s'ajoute entre guillemets, il y a eu un accroissement de ce qu'on appelle l'instabilité. Vous voyez, ça s'est mis à bouger dans tous les sens, mais enfin, quand même. Donc, on voit que ça descend vers le froid, mais surtout que l'amplitude des variations augmente. Voilà. Bon, et en fait, hein, ça va être un petit peu ça le truc, c'est qu'on va alors établir des relations, une corrélation, comme on dit, entre l'instabilité climatique et l'évolution de notre espèce. Bon, pour faire simple, j'anticipe sur la conclusion, on pense que si notre espèce a autant évolué et qu'elle a évolué, on va dire, dans ce sens-là, etc., c'est parce qu'elle a dû s'adapter, voilà. Alors, non seulement au refroidissement, mais aussi, donc, à l'instabilité climatique, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors, là, je fais une petite page sur ce qu'on a on va dire très longtemps et jusqu'à peu, utilisé pour expliquer l'évolution des espèces. Alors, on peut appeler ça la théorie de la savane africaine. Il y en a sûrement parmi vous qui ont entendu parler de ce qu'on appelle l'East Side Story. Voilà. Alors, notamment popularisé par quelqu'un comme Yves Coppens en France. Bon, et donc, attention, parce que ça concerne en fait deux périodes, mais on va dire c'est le même raisonnement. Donc en fait, l'East Side Story, ça concerne la période 7-8 millions d'années. C'est ce qu'on pourrait appeler l'apparition de la bipédie, hein, le moment où on a constaté que visiblement nos ancêtres se redressaient, devenaient bipèdes. Mais ça concerne aussi le même raisonnement, une période beaucoup plus proche, il y a 3 millions d'années, où là c'est, on va dire, le développement, en fait c'est l'apparition des premières espèces humaines, hein, Homo habilis, etc. Concrètement, là, on va dire, c'est le développement important du cerveau. Voilà. Donc pendant longtemps, on a fait le raisonnement que je vous résume, qui est tout à fait cohérent, etc., hein, qui consiste à dire, donc je refais le raisonnement, il y a un refroidissement à l'échelle de la planète. Par ailleurs, en ce qui concerne l'Afrique, puisque voilà, on s'intéresse à l'Afrique, puisque c'est là que l'essentiel s'est passé, il y a eu un autre phénomène que je vais montrer juste un petit peu après, l'éruption du rift, concrètement une montagne en Afrique, hein, qui a coupé une partie de l'Afrique en deux, etc. Voilà. Donc tout ça, ces deux phénomènes cumulés ont entraîné un assèchement, on va dire, sérieux en Afrique. Alors pas dans toute l'Afrique, dans l'Afrique de l'Est, là où on a retrouvé la plupart des fossiles. Cet assèchement veut dire que les espèces, pour survivre, ont dû changer leur mode de vie, etc., leur alimentation, etc. La sélection naturelle s'est appliquée, parce que ça, c'est sûr, hein, voilà, Darwin, etc. Et du coup, des espèces ont disparu, d'autres sont apparues, mieux adaptées. Celles qui ont survécu, ben, c'est celles qui vont se redresser, devenir bipèdes. Voilà, ça va leur permettre, ben, de continuer à vivre, de se nourrir, etc. Par ailleurs, ils vont développer leur cerveau. Avec ça, tout ça, ils vont utiliser des outils. Ces outils vont leur permettre de survivre, etc. Et si on finit le film, ben, on finit par l'espèce humaine, l'apparition du genre humain, etc. Bon, alors donc ça, je vous dis, hein, c'est ce qu'on expliquait, y compris ici, etc. Comme tout le monde, on va dire. Hein. Bon, aujourd'hui, on dit c'est sûrement un peu plus compliqué que ça. Et Yves Coppens lui-même dit ça explique pas tout, ça marche pas bien pour tout, etc. Alors pourquoi ça marche pas bien? Bah, il y a eu plusieurs découvertes, hein, qui sont un peu venues contrecarrer ça. Ah, oui, auparavant, hein, donc je vous avais dit c'est quoi le rift africain. Donc hein, je vous dis c'est une montagne qui s'est créée. Alors très progressivement, je crois que ça a démarré il y a 30 millions d'années. Bon, hein, voilà. Donc enfin, ça s'est accéléré il y a une dizaine de millions d'années. Donc c'est une montagne qui a coupé, hein, si vous voyez, l'Afrique de l'Est du reste de l'Afrique. Quand je dis coupé, hein, j'exagère, c'est une balafre, hein, une fissure, on pourrait dire, importante. Alors c'est des montagnes, hein, là j'ai mis des photos, qui vont jusqu'à 2000 mètres de hauteur. Hein, c'est pas l'Himalaya, hein, mais c'est quand même des montagnes assez importantes. Alors c'est un truc compliqué, hein. Bon, ça va du nord au sud à peu près, mais vous voyez, il y a plusieurs morceaux. Alors ça crée des montagnes. Donc les montagnes, je l'ai dit, ça peut arrêter les nuages. Hein, c'est ce qui a permis de dire, ben, les nuages étaient arrêtés, et donc les nuages qui arrivaient, on va dire, de l'ouest ici, étaient arrêtés, et du coup la pluie n'arrivait pas jusqu'à l'est, et donc l'est s'est asséché, et c'est là que seraient apparus nos ancêtres, la bipédie, etc. C'est ce qu'on appelle donc la théorie de la savane. Bon, ceci dit, c'est plus compliqué que ça, parce que ces montagnes se caractérisent aussi par beaucoup de lacs. Voilà, hein, parce que quand il y a des montagnes, il y a des lacs, voilà, c'est normal, ça fait des trous, des bosses, etc. Et en fait, c'est plus ça qui explique que les hommes, nos ancêtres, pardon, se sont installés par là. Parce que les hommes, bon, c'est plus confortable de vivre au bord d'un lac que de vivre au milieu du désert, ou au milieu de la forêt, ou au milieu des montagnes arides. Hein, voilà. Bon, donc c'est là une zone qui a visiblement été peuplée largement par nos ancêtres. C'est là que beaucoup de phénomènes évolutifs nous concernant se sont produits. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, j'ai dit que pendant longtemps, on a expliqué que c'est le fait que cette partie de l'Afrique a été coupée de l'humidité ambiante qui fait qu'elle s'est asséchée et que donc il y a eu des phénomènes évolutifs importants. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui pose problème, donc ça, voilà, c'est le raisonnement que je viens de faire, c'est certaines découvertes. Alors, pas toutes. Hein, bon, là, par exemple, on a d'abord découvert en 2001, je crois, Aurorine. Alors, c'est un fémur. Voilà, c'est juste un fémur. Hein, on n'a pas retrouvé le crâne, 6 millions d'années. Alors 6 millions d'années, hein, vous voyez le petit schéma, c'est pas très loin de l'ancêtre commun de l'homme et du singe. Hein, donc c'est vieux, Aurorine, 6 millions d'années. Et là, on dit, ah ben oui, il a un fémur de bipède. Hein, on arrive, évidemment, les paléoanthropologues arrivent à dire que avec un tel fémur, notre ancêtre, Aurorine en l'occurrence, était bien redressé. Or, il se trouve que cet ancêtre, ce fossile plus exactement, a été retrouvé là où on attendait de le retrouver, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, au Kenya pour être concret. Voilà. Donc lui, en fait, il corroborait l'histoire de l'Histoire Story. Il a été présenté à l'époque comme une preuve que l'Histoire Story, ça marche. Voilà. Il se trouve que plus tard, alors tout bail, hein, c'est plus récent, 2005, on a découvert un crâne. Bon, c'est celui-là, hein, là, j'ai une reproduction. Alors, il n'est pas très beau, il est petit, etc. Il est tout abîmé, mais il est d'une part très vieux, 7 millions d'années, et surtout, il a deux caractéristiques importantes. Il a des caractéristiques qu'on va qualifier d'humaines, bon, c'est-à-dire que les scientifiques arrivent à dire, en regardant notamment la position du trou occipital, mais aussi en étudiant les dents, ou ce qu'il en reste, évidemment, ils arrivent à dire que c'était pas un singe, que c'était un ancêtre de la lignée humaine. Mais regardez, le problème, c'est que sur la carte, il n'est pas du tout dans la zone où on s'attendait à trouver les ancêtres des hommes. Il se trouve au Tchad, c'est-à-dire vraiment en Afrique centrale. Alors attention, le Tchad d'il y a 7 millions d'années ne ressemble pas au Tchad actuel. C'était une zone avec des lacs, avec des rivières, etc. Hein, bon, c'était je connais pas le Tchad, mais enfin bon, c'était pas la savane aride, etc. Donc c'était un climat, on va dire, différent, et surtout c'était complètement à des milliers de kilomètres, donc rien à voir avec l'Afrique de l'Est. Donc voilà, si on considère que Toumaï est bien un des ancêtres de l'homme, la théorie de List Size Story qui dit encore une fois que tout s'est passé en Afrique de l'Est, ça tient pas trop debout. Attention, Toumaï est tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est un ancêtre de l'homme. Hein, mais bon, voilà. Alors, en fait, il n'y a pas que Toumaï. Hein. Voilà, il y en a un autre qui est moins connu, qui s'appelle Ramidus. Alors, c'est lui. Bon, il n'est pas très spectaculaire, hein, mais bon, on pourrait dire c'est un petit singe. Hein. D'ailleurs, son cerveau, par exemple, c'est moins qu'un chimpanzé actuel. Hein. Bon, voilà. Mais bon, alors lui, par contre, il pose vraiment problème parce que, d'une part, on a retrouvé alors son crâne quasiment, mais aussi beaucoup de morceaux de son squelette, et on est sûr qu'il avait des aptitudes importantes à la bipédie. On va dire celui-là, on n'est pas très sûr parce qu'on a retrouvé que ça. L'autre, quand on retrouve des morceaux de fémur, etc., de tibia, de tout ce qu'on veut, là on peut dire lui il était bipède et c'est pas trop contestable. Bon, alors lui, le problème c'est que on l'a certes retrouvé en Afrique de l'Est, on va dire en Éthiopie, voilà, mais on a retrouvé aussi son environnement, parce qu'évidemment on retrouve les roches, les fossiles des animaux qui vivaient autour, etc., dont ils se nourrissaient éventuellement, et cet environnement n'était pas l'environnement de la savane. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ils vivaient dans la forêt. Alors, pas la forêt tropicale, la jungle, etc., ils vivaient dans un environnement qui ne serait pas l'environnement sec, aride, savane, etc., qui aurait obligé, selon la théorie de l'Histoire Story, hein, qui aurait obligé nos ancêtres à se redresser pour voir ce qui se passe, pour échapper aux prédateurs, pour se déplacer, etc. Donc, ça veut dire que c'est plus compliqué que ce qu'on avait dit. Hein, voilà, c'est pas si simple, on est obligé. Je répète, Yves Coppens lui-même a dit, ma théorie, elle tient plus. Voilà, hein, bon. Alors, elle tient en partie, etc. Le raisonnement général reste valable, hein, l'influence du climat, mais dans les détails, ça ne tient plus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, ce sont des propositions. Déjà, c'est pas les miennes. Hein. Bon, ce que les scientifiques évoquent en ce moment, comme on va dire un peu nouvelle explication, ils disent oui, en fait, ce qui s'est passé, certes, il y a eu un assèchement, etc., mais il y a eu ce que j'ai déjà évoqué, là, je l'ai mis en gros, un accroissement de l'instabilité, des fluctuations climatiques. Bon, alors, donc là, vous voyez, hein, ce dont je vous ai parlé, c'est la période entre 6 et 4 millions d'années. Hein. Le Ardipithecus, c'est 4,5 millions d'années. Voilà. Donc là, on est dans une période où ça bouge beaucoup. Et une explication, ça serait de dire, j'ai commencé à le faire, ça a augmenté, une explication, ça serait de dire, comme le climat a beaucoup évolué, il a fallu que nos ancêtres s'adaptent. Et le résultat, un des résultats de cette adaptation, ça serait donc Ardipithecus, qui s'avère être capable de bipédie. Alors attention, je suis passé vite sur le panneau précédent, il n'était pas ce qu'on appelle un parfait bipède, c'est-à-dire qu'il passait une partie de son temps debout sur ses deux jambes, mais aussi une grande partie de son temps dans les arbres. Voilà, hein, parce qu'il fallait échapper aux prédateurs, parce qu'il fallait se nourrir, etc. Alors c'était vrai le cas, c'était le cas de celui-là, mais c'est aussi le cas de ceux dont on va parler maintenant, qui sont plus connus, les Australopithèques. Alors on est dans une période, on va dire, entre 3 et 4 millions d'années, pour faire à la louche. Hein. Donc là aussi, on constate que le climat varie beaucoup, il se refroidit, donc il s'assèche, voilà, ça bouge beaucoup, et ben, il y a eu, en fait, ça on le sait, plein d'espèces, entre guillemets, alors plein d'Australopithèques, on va dire plein d'espèces d'Australopithèques qui sont apparues. Bon, alors ils ont des noms divers, etc., hein, peu importe les noms, mais c'est en quelque sorte la trace ou la preuve, si on peut dire, que ben, les choses ont bougé. Voilà, donc hein, le raisonnement, c'est le climat change, l'environnement change, ben, les espèces s'adaptent. Et donc ils inventent, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, etc., pour essayer de s'adapter à un climat qui lui-même bouge un petit peu dans tous les sens. Donc des fossiles d'Australopithèques, on a retrouvé des centaines, hein, vraiment des centaines, donc on les connaît bien, et puis toutes sortes, hein, la plus célèbre c'est Lucie, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Bon, alors donc ça, hein, je ne vais pas étudier les Australopithèques, mais parmi ces Australopithèques, j'ai dit, il y a Lucie. Ben, Lucie, comme Ardipithecus, mais on la connaît mieux, on va dire, elle, c'est sûr, elle était capable ben, de faire bien, on va dire, bien, plus ou moins, c'est relatif, hein, deux choses. Donc capable de marcher, ça c'est pratique quand on veut survivre dans la savane, mais capable aussi de grimper dans les arbres, beaucoup mieux que nous en sommes capables, évidemment, aujourd'hui. Hein. Donc elle avait des bras pour ça, elle avait des muscles, des doigts, de tout ce qu'on veut. Hein. Donc en fait, ben, elle était, on va dire, bien adaptée à un milieu varié, divers, dans lequel il faut pas pouvoir marcher, mais il faut aussi pouvoir grimper dans les arbres. Bon, et donc c'est le raisonnement, hein, c'est que son adaptation lui a permis de survivre dans une époque où ben, voilà, les climats étaient variés, donc les environnements variés, et on avait intérêt à être capable de faire deux choses à la fois. Voilà, hein, marcher, mais aussi grimper. Voilà, donc Lucie et les Australopithèques sont un exemple, c'est pas les seuls. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Donc je m'approche, on va dire, de la période actuelle. Voilà. Alors là, on est avant 3 millions d'années. Et là, il va se produire un phénomène. Donc ça continue à bouger beaucoup. Et là, vous constatez qu'il va y avoir deux espèces. C'est pas deux espèces, c'est deux genres différents. Il y a le genre humain. Voilà, on va dire c'est nous, nos ancêtres plus exactement, voilà, mais on avait des cousins qui ont vécu pendant 2 millions d'années quasiment en Afrique, hein, ça se passe en Afrique ça, parallèlement au genre humain. Alors voilà un petit schéma qui représente ce qui se serait passé, mais là aussi c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a 3 millions d'années, il y a un nouvel assèchement en Afrique, voilà, donc ça il est établi, hein, par les mesures, par etc. On sait, froid, refroidissement, etc. Voilà, assèchement, pardon. Du coup, ça force nos ancêtres à s'adapter, et là ce qui est un petit peu établi, hein, c'est qu'il y a vraiment eu deux évolutions, deux grande direction d'évolution. Donc, l'une à gauche, c'est celle qui va nous concerner. Alors, pour faire simple, on appelle ça les gros cerveaux. Voilà, c'est ceux qui vont développer leur cerveau pour survivre. Alors attention, hein, c'est pas eux qui choisissent, c'est la nature. Hein, c'est la nature qui sélectionne ceux qui ont les mutations génétiques, qui leur permet, etc. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi donc des cousins, on va dire, hein, les paranthropes. Alors eux, ils ont développé des grosses dents. Alors voilà ce que ça donne au niveau des crânes. Bon, enfin, je peux le montrer sur le schéma, mais sinon je les ai ici. Alors voilà, hein, quoi ressemblaient les crânes de nos cousins de l'époque. Alors ils avaient une crête sagittale au sommet du crâne. Bon, je peux le montrer un petit peu ici, mais enfin, vous êtes un peu loin, voilà. Bon, un truc qu'on n'a évidemment plus aujourd'hui. Ils avaient aussi, et surtout, on va dire, des arcades zygomatiques, voilà. Hein, les arcades zygomatiques, c'est ce qu'on appelle les pommettes, hein, concrètement. Ils avaient des arcades zygomatiques extrêmement écartées. Ce qu'on voit aussi, ben, sur ce schéma-là, mais on le voit ici, ils avaient des dents énormes. Quand je dis des dents énormes, c'est des molaires énormes. Bon, alors tout ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle un appareil de mastication. En fait, ils ont survécu en développant des capacités importantes de mastication. Hein, ils ont réussi. Ça leur a permis de se nourrir de choses qu'auparavant, peut-être, peut-être nous, enfin que nous par exemple, on n'arriverait pas à manger, hein, parce qu'on n'a pas les dents pour ça, parce qu'on n'a pas les muscles masticatoires pour ça, et tout ça, ce sont des preuves que l'appareil masticatoire, donc l'appareil masticatoire, c'est les dents, c'est les mâchoires et c'est les muscles qui font marcher tout ça. Tout ça, c'est, ça se voit sur les crânes. Hein, la crête sagittale, c'est parce que les muscles de la mastication s'attachent en haut du crâne. Donc quand vous mastiquez, on sent ça bouge. Hein. Mais en fait, voilà, c'est, et ceux qui avaient ce genre de particularité, bah, ça leur permettait de mastiquer plus et plus fort et plus longtemps que les autres. Donc ils mangeaient mieux, donc ils survivaient, donc ils avaient une descendance et leur espèce se perpétuait. Voilà. Donc hein, je vais vite là-dessus, mais c'est un exemple d'évolution. Alors, notre évolution qui nous concerne, bah, je l'ai dit, c'est bah, on a plutôt développé notre habileté, notre intelligence, etc. Concrètement, notre cerveau. Bon, alors tout le monde a entendu parler de Homo habilis, c'est lui. Alors en fait, au départ, il a un cerveau à peine plus gros que ses cousins. Hein, donc voilà, mais par contre, ça va aller vite. En fait, hein, ses successeurs vont vraiment développer leur cerveau, alors que les autres vont pas trop, quand je dis pas trop, hein, développer leur cerveau. Voilà, donc... Bon, ça, le principe, hein, je l'ai dit, c'est on va pas développer des capacités physiques particulières, on va développer des capacités intellectuelles qui vont permettre concrètement de fabriquer des outils avec lesquels, hein, donc là, je vais pas parler des outils, il y a des autres exposés pour ça, avec lesquels, concrètement, il va pouvoir trouver sa nourriture, découper des charognes, etc. Attention, à l'époque, on chasse pas. Hein, il récupère des charognes, il casse les os, il mange la moelle, etc. Hein, c'est tout. Hein, voilà, il creuse éventuellement la terre, tout ce qu'on veut, mais évidemment, c'est pas des chasseurs à l'époque. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qui va permettre à nos ancêtres de survivre. Bon, donc là, vous revoyez une courbe dans laquelle on remontre l'évolution du climat. Et donc, hein, on dit, il y a 4 millions d'années, avec les fluctuations climatiques, ben, il y a eu l'invention, en quelque sorte, des outils. Hein. Bon, donc, qui correspond à une période, qui correspond à un climat, et qui correspond, je répète, à une instabilité et à une réponse évolutive parmi plusieurs possibles. Tout ça restant à l'état de d'hypothèse. Hein. Voilà, donc on peut dire, pour résumer, instabilité, donc les hommes ont innové, hein, ils ont donc innové des techniques et ils ont innové, y compris en termes d'espèces. Bon, alors la suite, c'est quoi? Je termine. La suite, ben, on la connaît mieux, c'est nos ancêtres directs. Alors, bon, hein, je vais parler que de celui-là parce que c'est à peu près les mêmes. Homo erectus, là, c'est à partir de 2 millions d'années, il a comme particularité d'être le premier homme, on en est à peu près sûr, mais pas tout à fait, à être sorti d'Afrique. Jusque là, toute l'histoire que je vous ai racontée, c'est en Afrique. Bon, Homo erectus, hein, on le sait, on a retrouvé beaucoup de squelettes, etc. Il avait un squelette de marcheur, comme on dit, hein, de marcheur parfaitement bipède. Donc là, vous avez la comparaison à gauche, c'est Lucie, un australopithèque voilà, de 3,2 millions d'années. Et là, c'est un erectus, un Homo erectus, 1,5 million d'années. Bon, vous voyez que c'est pas du tout la même morphologie. Bon, et là, concrètement, c'était un adolescent de 15 ans qui mesurait 1,70 m. Bon, voilà, donc hein, on va dire avec un physique de marcheur et même de coureur, il était capable de franchir des distances assez importantes. Bon, et donc on ne s'étonne pas que cette espèce et d'autres qui lui ressemblaient sûrement à l'époque se soient permis de se balader sur toute la Terre. Enfin, toute la Terre, j'exagère un peu, mais enfin pas mal. Hein, donc ils sont partis hein, à Dar. Hein, donc si vous regardez les dates les plus anciennes, c'est en Afrique de l'Est. Il y en a qui sont descendus vers le sud, il y en a qui sont descendus vers le nord, vers l'Europe, vers l'Asie centrale. L'Asie centrale, vers l'Inde, la Chine, etc., jusqu'à Java. Hein, donc tout cela, évidemment, en quelques centaines de milliers d'années, c'est des générations qui font ça. Mais bon, s'ils ont pu faire ça, c'est qu'ils avaient le physique pour le faire et les capacités intellectuelles pour, on va dire, s'adapter à des environnements forcément différents et à des milieux forcément différents. Alors c'est eux, notamment, hein, qui ont développé... Voilà, le fameux biface, hein, qui est une sorte de couteau suisse de la préhistoire avec lesquels ils arrivaient à faire à peu près, pas tout, je ne sais pas, mais sûrement pas, mais enfin beaucoup de choses. Hein, voilà. Et ces bifaces, bon, hein, on les suit un petit peu à la trace, donc on arrive à ce genre de choses, hein, on arrive à tracer un petit peu le chemin qui a été suivi. Voilà, alors je termine. Voilà, la fin c'est quoi? La fin de l'histoire c'est quoi? C'est donc nous sommes, on va dire, dans le dernier million d'années. Hein, ben, si vous regardez, les fluctuations climatiques se sont même encore aggravées. Ben voilà, on va poursuivre le raisonnement. Hein, bon, ben, il faut s'adapter. Voilà. Hein. Or, je l'ai dit, ceux qui avaient choisi les grosses dents, bon, ils se sont adaptés à une époque, mais on constate qu'ils ont disparu. En fait. Ce qu'ils avaient, enfin l'adaptation qui a été, on va dire, un atout, un avantage évident à une certaine époque, il leur a permis de survivre pendant 1 ou 2 millions d'années, visiblement n'en était plus un à partir d'une certaine période. On n'a pas les raisons précises. Ce qu'on sait, c'est que nous, on va dire nos ancêtres, avec nos cerveaux entre guillemets, ben, on a pu s'adapter à ces grandes fluctuations. Alors nos ancêtres, c'est par exemple lui, voilà, hein, Heidelberg, bon, hein, donc 500 ou 600 000 ans, 700 000 ans si on veut. En fait, hein, si on regarde son cerveau, alors hein, il est quand même, son crâne et son cerveau sont différents du nôtre, mais il a un gros cerveau, hein, 1200 cm3, on va dire. Nous, c'est 1400. Donc, vous voyez, c'est pas très, très, très différent. Bon, et puis, voilà, il avait visiblement des capacités intellectuelles pour faire ce qu'il a fait. Alors, lui, ben, comme les autres, hein, il va se déplacer. Voilà, on en a retrouvé un peu partout en Afrique, hein, bon, ouais, mais aussi beaucoup en Europe. Hein. C'est celui qui s'est beaucoup déplacé en direction de l'Europe, et c'est notamment celui qui a donné naissance aux deux dernières espèces dont on peut parler, Néandertal, qui s'est installé en Europe, donc là je ne vais pas faire l'histoire de Néandertal, hein, on n'a pas le temps, mais aussi on va dire, et surtout Sapiens, qui lui est resté en Afrique. Voilà, hein, donc on va dire que Heidelberg a évolué, il s'est déplacé, etc. Il a donné en Europe ce qu'on appelle les Néandertaliens, et en Afrique de l'Est, sans doute, voilà, il a donné Sapiens. Alors je termine l'histoire pour dire que, ben, ça je viens d'en parler, hein, une évolution importante du cerveau, voilà, c'est ce qu'on constate comme étant la réponse évolutive au changement climatique. Bon, ça c'est un autre schéma, hein, pareil, qui montre le climat qui évolue beaucoup. Hein, et vous voyez à droite, c'est la période actuelle, enfin dire le dernier million d'années, où ça bouge vraiment beaucoup, et ben on constate que le cerveau suit en quelque sorte, hein, donc il s'adapte. Voilà. Alors la fin tout à fait de l'histoire, hein, c'est donc Sapiens, mais comme vous le savez, il n'y avait pas que Sapiens, hein, voilà, je montre juste cette courbe-là ou celle-là, voilà. Donc nous on est les derniers survivants, hein, il y a eu Néandertal, il y a eu d'autres variantes en quelque sorte, d'autres espèces humaines. Il se trouve que Sapiens est la seule qui est survécue. Alors au passage, hein, donc ça fait 200 000 ans, hein, Sapiens, que l'espèce est apparue, hein, on peut dire quelque part en Afrique de l'Est. Voilà, hein, on peut suivre un peu son chemin à la trace aussi, hein, donc apparu, on a retrouvé des fossiles de presque 200 000 ans en Afrique de l'Est, de 100 000 ans au Moyen-Orient, de 90 000 ans en Asie centrale, etc. Bon, donc bah, visiblement il s'est déplacé, on peut même suivre, je disais, à la trace quasiment, ses déplacements. Voilà, bon, ça c'est une autre représentation, parce que il s'est pas arrêté à l'Europe, hein, vous voyez qu'il est allé en Asie, etc., et puis il avait les moyens d'aller plus tard, évidemment, en Australie et en Amérique. Il a conquis tout le monde, on le sait aujourd'hui, puisqu'on peuple toute la planète depuis environ 40 000 ans. Hein. Voilà, donc ça, c'est les espèces qui existaient à l'époque, donc Sapiens, la nôtre, mais d'autres, dont Néandertal. Aujourd'hui, on est les seuls, mais hein, comme c'est écrit, il y a 70 000 ans, il y avait, on estime, au moins 4 espèces d'hommes sur la Terre. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il n'en reste qu'une? Concrètement, Sapiens, c'est pas la guerre, c'est pas, etc., hein, parce qu'il y a toutes sortes de scénarios. Bah, en fait, hein, ce qu'on constate, c'est que Sapiens, bon, en fait, il était visiblement le plus doué, entre guillemets, alors doué au sens évolutif du terme, puisque c'est lui qui a survécu aux dernières fluctuations climatiques. Il a résisté en quelque sorte à tous les climats, hein, voilà. Donc il pouvait se balader, mais en plus, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ben, il arrivait à s'adapter, à se nourrir, à se reproduire et à croître d'ailleurs de façon assez importante en population. Alors, juste pour la petite histoire, voilà, vous avez en introduction, hein, j'avais parlé du dernier âge de glace, du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, hein, la mer 120 mètres plus bas. Ben, Sapiens, c'est le seul, on peut dire, ben, parce que on ne va pas parler de l'Asie, hein, le seul qui, en Europe, on va dire en Europe et en Afrique, ait survécu à cette période. Hein. Donc, après ce dernier âge de glace qui a duré, hein, vous voyez, à peu près 8000 ans, autour de, on va dire, d'il y a 20 000 ans, Néandertal avait disparu, hein, donc pour des raisons, on va dire, diverses, mais visiblement, il était plus adapté à la situation, en tout cas moins adapté, voilà, que Sapiens. Sapiens, qui avait, on va dire, développé toutes ses capacités intellectuelles, ses outils, etc. Bon, non seulement il a surmonté cette dernière grande glaciation, mais on le sait, très rapidement après, il s'est multiplié à grande échelle, donc il s'est sédentarisé, il a utilisé des outils de plus en plus sophistiqués, il a créé des récipients pour stocker, transporter la nourriture, bon, il a développé l'élevage, l'agriculture, etc. Bon, ça c'est la fin de l'histoire, hein, mais c'est pas le sujet, donc je conclue tout à fait, voilà, hein, donc on peut dire que ce qui a fait le succès, l'origine, hein, et le succès du genre humain, c'est donc bien son adaptabilité, voilà, au changement de climat. Hein. Pour donner une dernière image, si l'espèce humaine ou le genre humain a survécu, c'est pas parce qu'on est les plus rapides, les plus musclés, etc. Dans le monde animal, il y a beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Par exemple, on a des dents ridicules, etc. Hein. On peut pas lutter, hein, avec les prédateurs. Mais bon, on a quand même un outil que les autres n'ont pas, c'est le cerveau qui nous a permis, on va dire, de nous adapter à toute situation, quoi, hein. Donc une dernière formule pour terminer, hein, quand j'ai présenté Darwin, hein, la formule, on disait, pour résumer, c'est la survie du plus apte. Peut-être aujourd'hui on pourrait dire sur cette base, sur ces bases là que c'est la survie du plus adaptable, c'est-à-dire celui qui est capable de modifier son environnement. En tout cas, c'est ce qui apparaît, hein, jusqu'à preuve du contraire, dans on va dire ce genre d'études. Voilà, j'ai terminé, il était trop long, mais alors, je regarde le. S'il y a quelques questions, on peut prendre un petit peu. Je ne sais plus qui suit et à quelle heure, mais enfin. Je regarde là. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Bon, sinon, on peut discuter en aparté si vous voulez, mais enfin.
Oui,